c'est lui qui l'a fait. Ils vont partir de là. Je crois que c'était Emmanuel Edith qui, il y a quelques années, ou une vingtaine d'années, je me rappellera si c'est bizarre, qui avait écrit un livre qui s'appelle La science de l'être. Là, il a une intuition fondamentale. Je ne sais pas s'il a vraiment donné un ouvrage de contenu sur cette idée, mais l'idée est très traditionnelle. Qu'est-ce que c'est que la Kabbalah? C'est la science de l'être. Mais pas comme la philosophie. Disait l'éthique de Spinoza, ça c'est l'utilisation de, si Joël était là, il vous en dirait plus, ça c'est l'utilisation du verbe être en grec. Et finalement, pour Spinoza, on préférait quand même le latin au grec, mais le grec est derrière, c'est la fameuse grammaire hébraïque en latin de Spinoza, mais qui prolève les catégories de l'être latin dans le verbe être hébreu. Mais ce que j'ai ajouté comme nuance, pardon, c'est la science de la réception de l'être. Dans la tradition juive, on va prendre au sérieux l'écrit de la Bible, cette parole mise par écrit dans la Bible, on va la prendre au sérieux. Mais j'y reviens tout à l'heure. La différence fondamentale me semble être là. Donc tout le monde part. Il y a ici une rupture avec la perspective de la métaphysique philosophique. Nous pouvons employer le mot être dans le même sens si nous parlons de l'être créateur et de l'être créature. Et vous voyez que lorsqu'il y a confusion, finalement, on arrive à la théologie chrétienne. Confusion de substance entre l'être créateur et l'être créature. L'homme-dieu, le dieu-homme. C'est une notion radicalement idolâtre pour la tradition juive, pour la tradition hébraïque, dont la tradition juive est l'histoire de fidélité. Les juifs sont ceux qui sont fidèles aux hébreux, aux prophètes hébreux. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Alors que là, nous voyons très bien qu'à partir d'une vision du monde métaphysiquement radicalement différente, on véhicule les mêmes mots traduits de l'hébreu, mais on arrive à une toute autre théologie. Cette notion de l'incarnation telle qu'elle est entendue par les églises chrétiennes, quelles que soient leurs nuances, est radicalement extérieure à la tradition. Ça ne peut pas sortir des juifs. Ça a été projeté par les grecs. Parce qu'il y a cette mentalité que le mot de être a le même sens pour le créateur et la créature. Est-ce que c'est clair? Vous voyez que si nous pensons hébreu, nous devons partir de ce chemin. Havaya. Et ce terme, ce n'est pas déjà aujourd'hui qu'on va le découvrir, demain, après-demain, Havaya. Le nom de celui qui est Dieu par excellence, c'est le nom de l'être. Mais ma manière d'être, moi, créature, et sa manière d'être, lui, créateur, sont, j'emploie du temps philosophique, au niveau de deux substances radicalement différentes. Et toutes les analogies peuvent être pensées, mais à condition de partir de ce postulat, il y a radicalement, une différence radicale entre l'être du créateur et l'être de la créature que nous venons de découvrir. Parce que être en tant que mon geste d'être consiste à donner l'être, et être en tant que mon geste d'être consiste à recevoir l'être, c'est radicalement différent. Il n'y a pas de passage. Sinon, la paternité. Alors, nous verrons tout ce qui est de la maternité, mais c'est la même chose, notre problème, et nous verrons tout ce que les chrétiens ont fait de ça. Mais ce n'est pas notre sujet, le christianisme, c'est la Kabbalah. Simplement, je veux signaler que là, il y a un problème important. Nous n'avons pas la même grammaire d'être. Et pourquoi, encore une fois? Parce que le propre de la tradition hébraïque, c'est de mettre en évidence la signification morale, et c'est ça important, des termes apparemment métaphysiques. Alors que les Grecs sont au niveau de la contemplation métaphysique. Du concept éthique.
Est-ce que vous considérez que vous êtes tellement féminin?
Certainement. Certainement.
Dans la relation au jeu du nu?
Oui, certainement. Là, il exprime quelque chose qui vient de la Kabbalah à travers la Chassidut. Je voudrais vous parler très rapidement de ce problème. Je ne peux pas considérer Buber, que j'ai eu le privilège de connaître personnellement, et qui est un grand juif, qui est, je le dis au présent, parce que ces hommes-là même sont immortels, mais les grands. Je veux dire, je ne peux pas le considérer comme un porte-parole de la tradition juive elle-même. Il est le porte-parole de la pensée de Buber. Mais ce qu'il véhicule comme intuition procède de la tradition juive. Est-ce que c'est clair? Il s'inscrit, si vous voulez, dans la bibliothèque de la pensée des juifs. Ça ne veut pas dire que son œuvre n'est pas une œuvre traditionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas coïncident dans telle ou telle intuition, dans telle ou telle page, avec ce que les rabbins disent. Et il le dit à sa manière. Mais je ne peux pas prendre, je parle français, ouvrir à n'importe quelle page un livre ouvert et prendre n'importe quelle ligne comme parole d'évangile. Ça, je ne peux pas. Vous comprenez le problème? Alors que je le peux avec n'importe quel kabbaliste. Et donc, quand j'étais seul, il exprime la tradition chassidique qu'il a connue étant enfant. Il y a une énorme controverse chez les spécialistes, surtout en Israël. Son chassidisme n'est pas authentiquement chassidique. Il est très induit, ce chassidisme de Luber. N'oubliez pas cela. C'est la grande querelle entre Scholem et Luber, sur Luber. Et dans ce cas-là, Scholem a raison. Le chassidisme de Luber, ce n'est pas du chassidisme de lui uniquement. C'est mélangé de façon très subtile d'atmosphère induite. Mais ceci dit, la pensée de Luber a véhiculé cela. Dans cette dialectique du jeu et du tu, apparaît le sens moral de la révélation créationnelle, en ce sens que l'acte créateur est l'acte moral fondamental, faire exister aussi. Toute la moralité commence là. Alors que le philosophe, lui, va se préoccuper d'une analyse métaphysique du geste de créateur. Il ne rencontrera la morale que très loin, et encore sous forme de contemplation éthique, ce qui n'est pas le propos de la tradition biblique.
Répétez le commencement.
Je voudrais être un peu préalable à votre question. Ce que nous voulons élucider maintenant, c'est ce concept nouveau qui est apparu. Il y a une signification radicalement différente dans le mot « être » entre « être créateur »,« être qui donne l'être » et « être qui reçoit ». Ce que vous avez signalé, c'est une des limitations, pas l'apostrophe « unité », mais « limité », de l'être recevant l'être. Qu'est-ce qui fait ma finitude? C'est la définition infinie de ma finitude en tant qu'être recevant l'être. Mais l'objectif du créateur, c'est de me donner un être sérieux, absolu. Et vous verrez à travers cette catégorie que je commence un peu à analyser aujourd'hui, toutes les données habituelles du judaïsme se retrouver, de la tradition juive se retrouver avec un fondement traditionnel absolu. D'où différence radicale entre l'être présent, qui est le processus d'acquisition de l'être pour l'être selon l'être, et l'être espéré, qui est l'être absolu du projet du Créateur, et que nous appelons le rôle à maman. Oui, c'est-à-dire, au niveau même de l'être de créature, il y a deux niveaux radicalement différents. En l'amasé, dans le processus historique de l'acquisition du mérité, j'ajoute un terme important, et d'autre part, l'être promis par le Créateur, qui, au niveau de son être de créateur, ne peut être qu'un être absolu, mais de créature. Et vous voyez, l'utilisation de tous les termes, qui soient des substantifs ou des adjectifs, traduits de l'hébreu en grec, nous feront passer à un registre théologique radicalement différent. Vous comprenez pourquoi, une fois de plus, à beaucoup de niveaux, mais celui-là en particulier, un dialogue judéo-chrétien est impossible. Parce que dans le trait d'union, on a changé d'univers mental. Très bien, c'est les deux, mais vous avez mis en évidence l'aspect fascinant. Le Mekoubal, en tant qu'il est Mekoubal, accomplit la volonté du Créateur. Entendez maintenant ce qu'il y a dans cette formule. Accomplit la volonté du Créateur. Et quelle est la volonté du Créateur? C'est de donner. On a découvert quelque chose d'important. Cette formule véhiculée du vague, du vide. La piété, c'est accomplir la volonté du Créateur. Mais la Kabbalah va nous dire tout de suite de quoi il s'agit. Et quelle est la volonté du Créateur? Lis le mot Créateur, de donner l'être. Et par conséquent, comment j'accomplis la volonté du Créateur? En recevant l'être. En me faisant tel que l'être puisse, que l'être qui donne l'être puisse me donner l'être. Il y a donc un comportement dynamique, je dirais peut-être plus que actif. Parce que je reçois de plus en plus d'être. Et quel est l'objectif de la prière? C'est cela? Pouvoir recevoir de plus en plus d'être. Ce plus être s'appelle la bénédiction. Ce surplus d'être, si je veux dire. Ce supplément d'être s'appelle l'être de bénédiction. Et c'est l'objectif de la prière. C'est pourquoi nous nous adressons dans la prière à Dieu en tant qu'il est source des bénédictions. Baruch Atah Hashem. Et non pas à l'idée du Créateur, idée métaphysique, mais à l'idée du Créateur en hébreu, celui qui donne l'être. Et quelle est l'expérience par laquelle je perçois l'être créateur dans l'expérience de la bénédiction. Chaque fois que je rencontre cette expérience de bénédiction, de plus être, je suis en relation avec celui qui donne l'être, un peu plus. Mais qui tient cet objectif entre ses mains, la créature? Bon, oui, il va se recomposer dans notre esprit. Toutes les données habituelles sont véhiculées dans les formules de la tradition juive, mais dans une constellation autre. Dès qu'on a bien compris cela, j'ai moi-même eu des années recevant l'enseignement de la maître à pouvoir élucider cette notion qui allait de soi dans ce qu'il disait. Mais en tant qu'oreille recevant la parole, d'élucider cela pour pouvoir entrer dans l'univers de la Kabbalah, il faut radicalement renoncer aux soucis métaphysiques, de soucis éthiques et moraux. Déplacer l'accent de signification de l'univers où le grec est chez lui, la métaphysique, à l'univers moral où l'hébreu est chez lui. Quel est le sens métaphysique du terme de créer? Nous allons voir tout à l'heure. On verra que ça n'a aucune importance. Quel est son sens moral? Que ça l'importance. Parce que l'objectif, c'est de faire réussir, de réaliser le projet du créateur. C'est un peu le thème de mon exposé ce soir au niveau des conférences, mais j'y touche déjà un peu ce matin.
Comment expliquez-vous que c'est la capacité de la raison de concevoir l'acte de création, ex nihilo, soit précisément ce qui reste dans l'esprit des gens qui actuellement proclament la mort de Dieu, et cependant, pour croire en Dieu, croient encore au Créateur. Je vous donne un exemple, j'ai un bon ami, un ancien prêtre, qui a tout à fait rompu avec sa foi et toute foi révélée, comme il dit, il croit en Dieu, dur comme fer, enfin, en son âme. Et au fond, il se rattache à quoi? À l'argument de Voltaire, impossible que cette horloge existe, qu'il n'y ait pas d'horloger. Tout se passe comme si son exigence intérieure, qu'il y ait un Dieu et une relation entre cette chose, Dieu et la morale, il la transpose au plan intellectuel ou métaphysique et il n'en a pas conscience.
Très bien, et on arrive à une notion radicalement différente. Et je vous remercie de votre question, mais pour que je sois un peu dans l'analyse grâce à vous, c'est une différence radicale entre le Dieu fabricateur dont parle Voltaire et le Dieu créateur dont parle la Bible. Le Dieu de Voltaire fabrique une horloge, l'horloger, okay, alors que le Dieu de la Bible donne l'être, c'est très différent. Est-ce que c'est clair? C'est le Dieu des murs, à la limite, que vous avez là, pas le Dieu créateur, le Dieu fabricant. Et il y a quelques années, il a paru un volume en français sur Rachi, que vous avez sûrement dans la bibliothèque ici. En particulier, Roland Getschel avait donné un article important sur le visage de l'homme. C'est tout le cours des Tolados de M. Lornin qu'on retrouve là, à travers Orphée, bien sûr, mais c'est M. Lornin. Et vous avez dans le premier paragraphe une analyse de la différence entre le Dieu fabricant, c'est-à-dire le Dieu ouvrier de Voltaire, et le Dieu de la Bible, l'être donnant l'être, le boré, qui est âme, qui est père, et non pas horloger. Et vous avez vu le Dieu horloger s'adresser à Voltaire? Une idée incongrue, on va poser la question à Voltaire, mais est-ce que le Dieu dont tu parles t'a parlé? Tout comportement magique.
Voilà, tout comportement magique. Et d'autre part, cette relation entre la créature et le créateur à travers la prière reçue. Donc, il y a là à la fois une. Non seulement un critère de proximité, mais en plus un critère de. Je ne dis pas que c'est le mot maître, c'est-à-dire qu'on est en direct en quelque sorte.
Si vous voulez, d'emblée, nous sommes passés à travers ces questions d'un registre purement métaphysique et un registre religieux, pris au sérieux. Je voudrais peut-être éclaircir un peu cela aussi. Nous avons une tradition déjà dans la tradition talmudique. Nous disons de Dieu qu'il est Shomear Tefila. Il est celui qui écoute la prière. C'est-à-dire toutes les prières qui ont été dites, bien entendu dans un comportement d'authenticité, de l'être recevant l'être, demandant plus d'être au niveau bénédiction. Dans l'authenticité du projet de la prière, toutes les prières sont entendues. Mais je vais introduire un mot que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais qui fera l'objet d'un cours pour lui-même. la notion de mérite. Mais tant qu'il n'y a pas de mérite d'être, elles sont entendues et elles sont réservées. Dès que ce mérite de l'être qui reçoit l'être est apparu, tout ce qui avait été demandé et entendu est reçu à ce moment-là. Vous comprenez pourquoi il y a des prières qui ne sont pas exaucées maintenant, mais qui sont entendues. Et alors elles attendent le temps où le vase, le keli de réception sera prêt à recevoir. C'est là que nous introduirons la notion de mérite. Est-ce que c'est clair? On raconte chez les chassidim qu'un jour, un chassid, un tzaddik de chassidim, voulait rentrer prier à la synagogue, et puis il ouvre la porte, et puis il est rejeté en arrière. Alors ces chassidim ont dit, mais qu'est-ce qui arrive? Il ne peut pas rentrer dans cette synagogue, elle est pleine de prières. Il n'y a plus de place. Vous avez compris? Les prières ne sont pas bonnes, alors il n'y a plus de place. Je ne peux pas rentrer. Bien, est-ce qu'il y a une autre remarque sur ce problème? Peut-être que je vous donnerai une indication très 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 rapide pour ceux qui sont un peu plus avancés en hébreu, du point de vue d'une des méthodes de la lecture kabbaliste qu'on appelle la gematria, peut-être on utilisera ça, c'est-à-dire la valeur numérique des mots qu'on emploie, mais très furtivement. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Israël. Je répète, Hachem, chez vous et l'Okenu, vous Hachem Echad. Alors la valeur numérique de Hachem, c'est 26. La valeur numérique de Echad, c'est 13. La moitié, qu'est-ce qu'on apprend là? Que l'être qui est notre Dieu, c'est pas le nouveau être dans le sens métaphysique, bien, indifférencié entre le créateur et la créature, c'est l'être créateur. 13, c'est la moitié de 26. C'est lui qui est Hachem et l'Okenu. Je ne dis pas plus. Vous avez compris? Non, mais pas complètement, c'est pas grave. Votre âme a compris, elle a mis ça en réserve le jour de la compréhension. Bien. Bon, il n'y a pas d'autres remarques. Alors, je résume ces trois sens. Kabbalah, tradition reçue, c'est un sens très superficiel, pas pour, mais très superficiel. Qu'est-ce qui est reçu? C'est la prière. Mekoubal, ça veut dire celui qui est reçu dans sa prière. Et puis, troisième sens. C'est Kabbalah, c'est Chokhmat HaKabbalah, la science de la réception d'être. Bien. Alors, première analyse de l'impossibilité de la notion de crèche. Si vous voulez, de l'impossibilité rationnelle de la notion de crèche. Je vais bien insister là-dessus. Un problème de méthode qui est important pour l'ensemble de l'approche du contenu de la tradition juive, c'est que la notion de création est un objet de la foi et non pas du tout de la raison. Si un point de méthode qui me semble important, ne jamais dire, ne jamais faire semblant de transmettre une notion comme rationnelle alors qu'elle ne l'est pas. Un jour, l'enfant va grandir et il s'apercevra, on lui racontera une histoire et il jettera le bébé avec le divin, c'est-à-dire la morale avec la pseudo-mérite. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Jamais dire. Alors qu'on n'en est pas soi-même convaincu qu'une notion est évidente pour la raison. Alors, lorsqu'on parle à un enfant, il fait confiance, un jour il grandit, il s'aperçoit qu'on lui a raconté une histoire. D'où cela vient cela? On croit, à tort, que la notion de création va de soi pour la raison. Tout simplement d'une familiarité telle avec cette donnée de la foi qu'il y a un glissement d'évidence. C'est évident au niveau de la foi, pas du tout au niveau de la raison. Que je vais expliquer très rapidement pour débroussailler notre sujet, et on vous demande deux raisons pour lesquelles il faut s'attendre à ce que cette notion ne fasse pas partie de l'intelligence rationnelle, et donc des évidences de la culture contemporaine. Premièrement, parce que cette notion implique une contradiction absolue et met en échec le principe d'identité. Deuxièmement, parce que cette notion est apparemment, et nous creuserons cela, inexpérimentale. Or, la culture contemporaine n'admet comme objet de pensée que ce qui peut entrer dans l'univers scientifique, c'est-à-dire un phénomène qui se répète et qui est expérimental. Et par définition, l'acte de création objective ne se répète pas. Je dirais, c'est évidemment apparemment. Alors, pour le premier argument, qui est un argument d'ordre logique, cette notion véhicule une contradiction absolue. Je vais vous dire en latin, puis en hébreu, ex nihilo. Le terme de création pris au sérieux, et non pas simplement dans une sorte de halo politique, pris au sérieux, signifie que l'être apparaît à partir de rien. En hébreu, en hébreu, yesh me'alim. Bon, la réponse de la raison est directe. Ex nihilo, nihil. À partir de rien, rien. La raison ne peut pas comprendre. Qu'est-ce que ça dit? Que signifie l'apparition de l'être à partir du néant? Or, c'est pour cela que dit le terme hébreu que nous employons en disant Bria. Il y a d'autres termes qui signifient modification de l'être. Et dans l'apparition d'un aspect nouveau, on pourrait dire poétiquement qu'il y a création de quelque chose, mais ce n'est pas dans ce sens-là que le terme de Bria emploie le sens de créer. Là, je pense que c'est suffisamment clair. Il y a contradiction dans ce concept où on met en relation l'être et le néant. Et ça met en échec le principe d'identité. Et l'homme, livré à ses propres forces, en tant qu'être de nature, même si sa pensée la plus sophistiquée soit-elle, le plus haut niveau d'analyse philosophique, mais l'homme livré à ses propres forces, c'est-à-dire n'ayant pas entendu une information qui vient de l'extérieur de sa conscience, c'est-à-dire la prophétie, n'est renvoyé que à des hypothèses dans ce domaine. Je ne peux pas trancher. Rien ne peut me confirmer, ni dans le spectacle du monde, ni dans l'exercice de la raison, dans la question que je me pose, est-ce que le monde est créé ou pas? À quelque argument auquel je serais sensible pour dire, pour répondre oui, je peux opposer un argument pour répondre non, et réciproquement. Là, je ne suis que devant deux hypothèses précises. Et qu'est-ce qui me fait opter pour l'une ou pour l'autre? C'est pas du tout l'exercice de la raison, c'est une information de l'âme. C'est une option qui vient de plus profond que l'intelligence. Parce que l'exercice de l'intelligence, aidé ou non par la perception de la réalité, ne peut mener qu'à deux hypothèses possibles. En termes de raisonnement, donc le monde est créé, ou donc le monde n'est pas créé, mais sous forme d'hypothèse. Rien ne vient franchir. Pas même l'argument de Voltaire. Parce que je pouvais opposer un postulat différent au raisonnement. Peut-être que tout a un ouvrier dans le monde, mais que le monde n'a pas d'ouvrier. C'est-à-dire qu'ici, il faudrait faire une critique de la notion de causalité. Peut-être que tout dans le monde a une cause, mais pas le monde. J'avais une option subreptice que j'admettais que le principe de causalité était valable pour la totalité du monde aussi. Mais j'avais mis dans le postulat ce que je voulais trouver dans la conclusion. Donc même ce raisonnement ne peut être qu'hypothétique. Ne va y adhérer que celui qui d'autre part a des raisons d'y adhérer. Mais ces raisons d'autre part, c'est une information de la foi et non pas du tout un exercice de la raison. Est-ce que c'est évidemment clair ce que je dis? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, d'autre part, sait parfois que oui, le monde a un créateur malgré les apparences, qui exprime cette foi par un tel raisonnement. Mais ce n'est pas ce raisonnement-là qui le démontre. C'est un raisonnement d'exposition, d'une information que l'âme a d'autre part. J'ai un peu réfléchi à ce problème, ce qu'on appelle en philosophie les preuves de l'existence de Dieu. Premièrement, il y a une erreur de langage. Peut-être dans l'ancien français, c'est ce qu'on voulait dire. Il faudrait dire les démonstrations de l'existence de Dieu. Et toutes ces démonstrations de l'existence de Dieu, en théologie philosophique, dépendent toutes, sans exception, d'un postulat de départ. Et elles ne sont donc valables que pour l'esprit qui adhère à ce postulat de départ. Elles sont valables pour une certaine école intellectuelle. Et sachez que ce n'est pas du tout le propre d'une tradition de confier la transmission de son message à tel ou tel type d'école intellectuelle. La tradition s'adresse à des hommes et non pas à des universités. Et non pas à des écoles. Si prestigieuses qu'elles soient, elles ont toutes, les écoles de pensée, un postulat subreptice du commencement du raisonnement. Si j'ai affaire à un homme qui n'est pas sensible au principe de causalité, par son tempérament intellectuel, ou bien au principe de finalité, preuve téléologique, qu'on retrouve chez Descartes. Eh bien, est-ce que ça veut dire que la tradition n'aurait rien à lui dire? Or, elle parle de l'être créé. Tous, même ceux qui ne sont pas sensibles au principe de causalité, sont les créatures du créateur. Oui, que jamais la tradition ne confie son message à telle école intellectuelle de l'homme. Peut-être éclairer un point d'histoire. Au Moyen-Âge, nous étions privilégiés. Quand il fallait se mesurer à la pensée philosophique, alors on avait deux possibilités. Les platoniciens, les aristotéliciens, c'était finalement simple. Hein? Alors on dialoguait avec Aristote ou avec Platon. Aujourd'hui, un tel fourmillement d'école de pensée que la tentative d'un langage de synthèse avec la culture extérieure est vouée a priori à l'échec. Parce que dès qu'on aura parlé pour l'existentialisme, les essentialistes n'entendent rien. Si on parle pour les existentialistes n'entendent rien, etc. Vous comprenez pourquoi ce projet qui tente tellement d'auteurs contemporains est a priori à l'échec. Il y a un seul discours traditionnel, c'est celui qui exprime ce que la tradition a à dire, quel que soit l'interlocuteur, et non pas qui choisit par postulat un certain registre de vocabulaire de dialogue qui, par définition, ne va s'adresser qu'à une minorité, celle qui est sensible au postulat du discours, et qui va se découvrir par rapport à toutes les autres. Au Moyen-Âge, il pouvait y avoir une tentative jusqu'à l'Église maïmonide. Peut-être que le dernier grand formulateur, c'est le Maharal. Et après lui, eh bien, nous pouvons avoir que des monographies analytiques. Mais toute synthèse implique le choix de catégories de vocabulaire. Mais dans quelle école philosophique je vais choisir ce vocabulaire? Encore une fois, si je la choisis chez les structuralistes, eh bien, les matérialistes n'entendront rien. Si je la choisis chez les matérialistes, les structuralistes n'entendront rien, etc. Vous comprenez donc le problème. Et c'est pourquoi on ne peut que déplorer ces tentatives de livres qui paraissent, en particulier en français, je parle aussi beaucoup en anglais, mais je parlais donc du coup, d'exprimer des contenus appris dans la Kabbalah, mais dans la formulation de telle ou telle école philosophique très partielle de mode X ou Y contemporaine. En particulier, ça travaille les structuralistes, surtout les lacaniens. Paix à son âme, mais il le savait. Vous comprenez quel est le volume. Bon, alors je reviens sur ce premier argument et on n'en sort pas. C'est bouclé. Hein. La notion de création est irrationnelle. Elle ne fait pas partie de la raison. Elle se trouve dans la raison des croyants, mais par information de la foi. L'option d'adhésion à l'évidence d'une telle notion est préalable au raisonnement. Alors, nous allons entendre dans les conférences du soir, vous avez, n'est-ce pas, le programme. D'ailleurs, je remercie Moshe et Frère Rosti d'avoir bâti un programme aussi séduisant. L'emploi de ce terme de création, avec des implications esthétiques, poétiques. Alors, attention à l'utilisation du langage. Ici, dans le cours du matin, nous essayons de comprendre la signification kabbalique en hébreu. Je n'ose pas dire kabbalistique, ça fait un peu balistique, mais ce terme de lien. Premièrement, elle n'est évidemment pas rationnelle. Deuxièmement, elle ne peut pas faire partie de la pensée scientifique. Pourquoi? Parce que la pensée scientifique n'est sensible qu'à des phénomènes qui se répètent et dont elle fait la loi. En analysant, elle est le phénomène qui se répète. Or, par définition, cette notion de création prise au sérieux est un, comment dire ça en français, un cas unique, un apax. Si on prend au sérieux ce que la Torah nous dit, qu'au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre, c'est-à-dire le monde. Alors, réfléchissons un peu sur ce verset avant d'avancer dans la même. Vous comprenez ce que je veux dire? Si un savant de la science, de la culture occidentale, de la mentalité scientifique, de la culture occidentale, emploie le terme de création, ça ne peut pas être en tant que savant qu'il emploie. Parce que ce terme ne peut pas faire partie de la pensée scientifique. Premièrement, il ne fait pas partie de la raison. Et tant qu'on continue à penser suivant l'ordre du principe d'identité, que A égale A. Vous vous rappelez, la contradiction entre l'être et le néant est enfermée dans ce concept de création. Et deuxièmement, elle ne peut pas faire partie de la pensée scientifique. Ce n'est que par façon de parler, que par allusion verbale, qu'un savant vous dira « créer ». Prenez par exemple l'expression chez Bergson. L'évolution créatrice. Vous voyez à quel point il y a un sens poétique d'un concept philosophique. Évolution et créatrice, c'est contradictoire. C'est contradictoire pour la logique, c'est contradictoire pour la raison. Donc, qu'est-ce que Bergson veut dire? C'est une façon de parler. C'est un tout autre terme que nous rencontrerons en hébreu pour indiquer ces nuances de la pensée. Pas le terme de création. C'est le terme de Yetzira, et non pas celui de Bria. Ça nous demande un peu par là. Bien. Alors, nous sommes renvoyés à notre définition de départ. On sait qu'il y a une différence radicale entre la définition de l'essence de l'être en tant que donnant l'être et l'essence de l'être en tant que recevant l'être. Mais quand même, cependant, quelque chose circule, puisque de l'être est donné par l'être donnant l'être, à l'être recevant l'être. Cependant, quelque chose circule. Et donc, il y a un troisième terme, cet être qui circule entre l'être donnant l'être et l'être recevant l'être. C'est ce que les kabbalistes appellent, par un terme général, or de la lumière. Enfin, nous traduisons au niveau du dictionnaire, or de la lumière. Mais entre l'être qui donne l'être et l'être qui reçoit l'être, il y a une circulation de or. Mais or, c'est pas l'être. C'est ce qui fait que de l'être donnant l'être passe chez l'être recevant l'être. Il y a donc trois termes. La Havaya, l'être du créateur, la Havaya, l'être de la créature, et le Or qui circule entre le créateur et la créature. Et ce terme de Or, en langage kabbalique, ne signifie pas seulement lumière. À partir de maintenant, entendons-le en hébreu. C'est l'être manifesté. Quel que soit son étant, sa manière d'être. Et on parlera du or auquel les yeux sont sensibles. Je reçois de l'être à travers la vision. On parlera aussi du or auquel les oreilles sont sensibles. Je reçois de l'être à travers l'audition. Alors il y a or einaim et or oznaim. En français, je ne peux pas dire que mon oreille capte de la lumière. Je dirais elle capte des sons. C'est des niveaux du or. Nous verrons que c'est un terme générique, formel, général, que les kabbalistes emploient pour indiquer la circulation d'être, mais c'est l'être manifesté, et entre l'être qui donne l'être et l'être qui reçoit l'être. Premier terme, lui. Et puis, ce qui définit l'être recevant l'être en lui-même, s'appelle Keli. Keli. Le vase, le véhicule, l'outil de réception de l'être, le Keli.
Le or de or enaim, or oznaim, c'est le même or que or zaroua la tzadik?
Oui, ce terme, c'est-à-dire la signification de ce terme, finalement se va éclairer par l'étude kabbalique. Dans tous les versets, il est employé. Et vous vous rappelez comment commence le récit de la création, création entre guillemets, yéhi or, qu'il y ait du or. Le véhicule de l'être recevant l'être est défini tout de suite par le récit de la Bible comme étant le chaos, ce qui va nous renvoyer à celui de la Capeline, et obscurité. Et dans cet état d'obscurité apparaît un désir du Créateur qui y est or. Et le or apparaît. Bon, ça, nous le lirons dans le texte. Yéhi or. Qui crie cette demande? Eh bien, c'est l'état d'obscurité du Keli. Comme on dit le verset, le rocher a pénétré. L'être créé en tant que tel, en lui-même, dans son essence, est privé d'être encore. Il n'est qu'un vase véhicule de réception, mais qui est obscur, complètement privé dehors. Et alors, de cet état de Keli apparaît ce cri, Yéhior, qui est or. Et ce or vient d'un or préexistant. Ce or n'est pas objet du créé. C'est ce qui circule entre l'être créateur et l'être créé. Le or vient de Yesh Meyesh. Yotzer or, ou Boré projet. C'est la différence. Ça, c'est la notion de Yetzira, c'est
une notion de de fabrication dans le
Hébreu. Non, ça vous l'avez très dérivé dans l'hébreu moderne, dans l'hébreu de Wittmann. On va faire servir ce terme pour dire la fabrication, mais en réalité le yotzer c'est l'acte de la création artistique.
Façonner, non?
Oui. C'est donner une forme. Yatsur, c'est donner une forme, donner une sura.
Les gens qui ne reçoivent pas cette information de l'âme, c'est qu'ils voient une autre lumière, ils croient à quelle lumière?
On n'y arrive. On n'y arrive. C'est ce que je vais répondre déjà à M. Dupelet. Cette réaction de la métaphysique grecque est une réaction fondamentalement athéiste. On y arrive. Fondamentalement athée. Écoutez, je vais partir d'un petit récit historique, apparemment petit, que nous avons dans l'histoire de la vie. Le premier homme a retrouvé la capacité de la réception de cette Kabbalah, qui commence, vous voyez pourquoi les Kabbalistes le disent, le premier homme humain, c'est Adam Arishon. Le premier Messidal, c'était Adam Arishon. La tradition kabbaliste commence au premier homme. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la tradition de la réception de l'être, c'est la première créature. Mais finalement, nous voyons que la Torah nous donne de longs récits de généalogie, de génération en génération, en nous nommant d'un seul nom, d'homme, la génération. Et je dirais, pour employer le langage simple que nous employerons quand même, à chaque génération, il y avait un initié de cette Kabbalah. On nous donne son nom dans le récit des Torahs, dans le récit des générations. Et puis en fin de compte, une sorte de déperdition de cette conscience d'être créature. Qui véhicule, révolte contre le créateur. Et à la limite, contre l'idée même du créateur. Et puis le premier homme à retrouver cette tradition du premier homme, c'est Abraham. Mais nous verrons tout de suite que ce n'est pas du tout par un raisonnement philosophique, à la manière de Voltaire ou de quelque chose que ce soit. C'est par une certaine manière de se connaître en tant que créateur. Et qui est de l'ordre de la vertu et non pas de l'intelligence. Je voudrais décrire le premier mot. C'est-à-dire, ce que la Midrash nous enseigne, c'est qu'Abraham se découvre comme créature. C'est-à-dire, se découvre comme être recevant l'être. Par là même, il connaît qu'il y a un être devant lui. Mais ce n'est pas à travers un raisonnement, c'est à travers une prise de conscience de soi qui est de l'ordre des vertus morales. Parce que de deux choses l'une. Ou bien, me découvrant être, prenant conscience de moi, je me découvre comme étant moi l'être, et c'est une position athée, hein, ou bien je me découvre comme n'étant que parce que je reçois l'être, et c'est la position religieuse d'Abraham. Se connaissant comme créature, il connaît son créateur. Et pas par raisonnement, pas par une démarche intellectuelle, par une prise de conscience de soi qui est de l'ordre de la vertu, une vertu qui est très proche de l'humilité, en avant, mais entendu dans le sens de la Kabbalah, c'est-à-dire la conscience de la créature comme créature. Et vous voyez qu'il y a là une expérience existentielle à l'échelle de l'universel. Il n'est pas nécessaire d'être philosophe pour être kabbaliste, pour être disciple d'Abraham. N'importe quel être humain ayant cette manière de prendre conscience de soi est fils d'Abraham. Ensuite, il faut régulariser. Il y a un code de la science de la réception d'être. Il y a un mode d'emploi, il s'appelle la Torah. Vous avez compris ce que je veux dire, mais ça c'est un autre problème que nous verrons par là. Quel lien entre les mitzvot et cette science de l'être? Mais c'est le mode d'emploi. Comment reçoit-on l'être que le Créateur veut donner? Et nous retiendrons cette mitzvah fondamentale de la Avoda, le service du Créateur qui est la prière. Et avec la prière, c'est tout à fait autre chose que ce qu'on pouvait supposer.
Et les corbanotes font partie de
ça? Bien sûr. Tout ce qui est avoda, c'est avoda tamboré. Et qu'est-ce que ça veut dire être au service du Créateur? Le culte, c'est le service du Créateur. Mais ce que l'on a appris, finalement, c'est simple et fondamental. Le Créateur, ça veut dire l'être de non-être. Le service du Créateur, c'est les conduites de l'être finalement. Je procède un peu lentement, surtout pour le premier coup, pour que nous soyons assurés d'avoir changé de registre pas à pas. C'est-à-dire, lorsqu'un grec est en situation de culte, lorsqu'un hébreu est en situation de culte, il s'agit de deux conduites radicalement différentes. On ne rentre pas dans une synagogue, même si celles qui sont pleines de prières, comme on rentre dans une église. Tout en roulant. Peut-être à la nuit, parfois le seul temple non juif, on peut rentrer, c'est la mosquée. Et c'est dans tout un univers sémi, qui n'a rien à voir avec l'univers occidental. Et à force d'avoir refusé le judaïsme, finalement, les occidentaux tendent à se judaïser à travers l'islam, qui va devenir une des grandes religions de l'Occident, qui est en train de devenir. Remarquez ça. Remarquez pas. Vous vivez là-dedans. Et c'est une autre essence. C'est notre bien du côté du pétrole. Et l'expérience d'Abraham, est-ce que c'est suffisamment clair? C'est une manière de prendre conscience de soi en tant que créature. Elle enveloppe premièrement la connaissance du créateur. C'est une connaissance au niveau du terme hébreu de Dara. Ça ne passe pas par les raisonnements. C'est une vertu. Ce que je voulais ajouter, et qui était très important, c'est que c'est une expérience qui est donnée à l'universel. Par définition, n'importe quelle créature peut être fils d'Abraham. Il n'est pas nécessaire d'avoir tel ou tel tempérament intellectuel ou mystique. Il suffit d'être une créature authentique, en tant que corps, et de ne pas viser avec son propre être. Alors, dans ce récit, nous voyons qu'il y a, dès qu'apparaissent les grands personnages des étapes de la construction de l'identité créature authentique, c'est-à-dire Israël à la limite, le projet du créateur, selon le récit biblique, tout ça est à redécouvrir. Je dis bien, à redécouvrir, pas à découvrir. Eh bien, apparaît toujours un personnage antagoniste. Si vous voulez vous donner une analyse, un schéma important pour lire l'histoire que nous racontons. Dès que vous avez une étape de l'être d'Israël, apparaissent deux personnages parallèles. Un qui est l'antagoniste radical, et l'autre qui est une approximation d'identité qui s'instaure en rivalité. Vous voyez ce schéma? Vous avez pu l'énumérer dans les grands groupes. Abraham a un antagoniste qui s'appelle... Dans le récit biblique. Nahon. Très bien. Nimrod. Et il a une espèce d'approximation d'identité qui s'installe en rivalité. C'est qui? L'autre. Vous voyez comment ça se met en place? De l'autre vont apparaître deux rivalités à Israël, Amon et Moab. Une est déjà réglée, l'autre est déjà venue, de Moab. Il nous reste la rivalité qui vient de Amon. Comment s'appelle la capitale de la Jordanie?
Amman.
En arabe? En hébreu?
Rabat Amon.
Rabat Amon. Avec Moab, c'est réglé depuis Ruth. On attend ce qui se passera au front à l'ennemi quand elle viendra de Amon. Elle. Je ne sais pas si elle s'appellera Ruth ou Nahama. Elle veut être plus vite. Et vous savez très bien qu'à ce niveau-là, la principale rivalité d'identité avec le monde extérieur, c'est la Jordanie. Et c'est pour combien qu'elle s'appelle Rabat Amon, la capitale de Amon. Il faut chercher très loin. Où commence cette rivalité-là? Elle dépasse les problèmes que nous avons avec Ishmael. Ça vient de l'autre. Vous avez compris ce que je dis? Bon, revenons à l'actualité. Donc la Jordanie, c'est une triste. Et l'actualité, c'est la même. Et deuxième génération, Isaac. Quel est l'antagoniste d'Isaac?
Ishmael,
c'est l'approximation d'identité qui s'installe en rivalité. Ishmael pour Isaac et l'autre pour Abraham. Quel est l'antagoniste d'Isaac? Bon, rapidement, pour ne pas perdre de temps, un certain Abimelech. Il était le roi d'une principauté qui s'appelle le territoire de Gaza. C'est une histoire qu'on connaît avec les Philistins. Gaza. Troisième génération, Jacob. Quel est l'antagoniste de Jacob? Non. Esaü, c'est l'approximation d'identité qui s'installe en rivalité. L'antagoniste de Jacob, Laban. Et oui, c'est un schéma très simple des racines de notre
histoire. Lévanon? Non.
Nahon. Des racines de notre histoire qui nous permettra de lire cette histoire dans la réalité historique elle-même. C'est un, si j'ose dire, un schéma Israël éclairant. et tout se met en place dans la réalité. Nous sommes dès le début accompagnés par l'antagoniste et le rival à toutes les courses et ça qui touche. L'antagoniste, c'est celui qui veut supprimer Israël. Le rival, c'est celui qui veut substituer sa propre identité à Israël et qui se prétend l'Israël authentique à la manière noire, à la manière allemande.